Rééducation après ligamentoplastie du LCA. Un article du Kinéactualité du jeudi 17 mars 2011, écrit par Bernard Kayser, Reda Taillard et Souhaï Benmida. Ces interventions étaient effectuées à ciel ouvert avec décollement cutané important et large arthrotomie. Les patients sortaient du bloc avec un plâtre qui, la plupart du temps, était fendu et ouvert afin de limiter la compression douloureuse du genou. Hospitalisé une semaine environ, le patient béquillait puis ressortait avec un nouveau plâtre et la rééducation pouvait commencer souvent à la sixième semaine. Tout cela se passait à la fin des années 70 et au début des années 80. Les plasties du LCA pouvaient être intra-articulaires, extra-articulaires ou mixtes. Le transplant était naturel ou prothétique. Elle s'appelait Kenneth Jones, Lemaire, Liederman, McIntosh, etc. La myotrophie était importante et la mobilité articulaire pratiquement inexistante. On imagine facilement la suite de la rééducation. Kinésithérapeute libéral à mi-temps dans le service d'orthopédie du professeur Philippe Segal au CHU de Reims, j'assistais régulièrement à ses interventions. Vu la vigueur avec laquelle le chirurgien testait la solidité de la plastie à la fin de l'intervention, je demandais alors à profiter de l'ouverture du plâtre pour mobiliser le genou prudemment pendant l'hospitalisation. Nous nous rendîmes compte alors que les genoux mobilisés dans les premiers jours post-opératoires récupéraient plus vite. L'apport de l'ATEL Kinetech en 1978, créé par un confrère ardennais, nous facilita la tâche. Les patients sortaient avec une ATEL de Zimmer et la rééducation était poursuivie au cabinet. Les années 80 ont vu l'arrivée de l'arthroscope et des plasties avec les matériaux synthétiques qui ont été vite abandonnés. Depuis les années 90, sont pratiquées des reconstructions ligamentaires anatomiques sous arthroscopie. Actuellement, on utilise les tendons des muscles à portée de bistouri, soit les tendons du quadriceps, du fascia lata ou des ischio-jambiers. Et les progrès actuels portent sur la reconstruction la plus anatomique possible en reconstituant le ou les différents faisceaux du LCA. Et nous pouvons penser que demain, les chirurgiens reconstitueront la torsion des fibres de ce ligament. Après une courte hospitalisation, le patient sort avec des béquilles et une genouillère rigide ou articulée. On entame son programme de rééducation. À son arrivée au cabinet de 5 à 8 jours après l'intervention, le patient bénéficie d'un bilan analytique fonctionnel initial, articulaire, trophique, la collecte des informations médicales, imagerie, compte-rendu opératoire, etc., complète le dossier médical et le patient est informé sur les temps de cicatrisation et des différentes phases de sa rééducation. Il est difficile de s'y retrouver dans la jungle des protocoles. De toute façon, on ne rééduque pas une intervention chirurgicale, mais un genou qui a présenté une entorse avec une lésion du LCA associée, dans la plupart des cas avec des lésions ligamentaires périphériques. Il est impératif d'obtenir un compte-rendu opératoire au début de la rééducation. L'objectif de la rééducation est de conserver ou augmenter la mobilité articulaire et tissulaire, orienter et renforcer la cicatrisation tissulaire, récupérer, maintenir et améliorer la force musculaire du membre inférieur, entretenir et améliorer la mobilité des articulations sus et sous-jacentes, obtenir un bon appui proprioceptif statique puis dynamique, prévenir le déconditionnement du membre contralatéral, reprendre les activités physiques et sportives. Les trois thèmes suivants seront présents tout au long de la prise en charge rééducative de manière progressive ou dégressive. Dans le temps, chaque séance comportera les trois thèmes variables selon l'évolution, les impératifs médicaux et chirurgicaux. Grand 1, mobilisation tissulaire avec arthromoteur active et activo-passive de l'enveloppe cutanée, des éléments capsulo-ligamentaires, des enveloppes et gaines synoviales, des éléments tendineux visant la prévention des troubles trophiques, la mobilisation du tissu collagénique multimicro-vacuolaire afin d'éviter les adhérences, l'amélioration des amplitudes articulaires, l'orientation et le renforcement de l'organisation collagénique cicatricielle. Pourquoi mobilisation tissulaire? Les travaux du docteur Jean-Claude Guimberto remettent en cause la notion de fascia d'apronévrose en abandonnant la théorie des espaces lamellaires concentriques et stratifiés au profit d'une matière vivante continue dont l'unité fonctionnelle est la macrovacuole, formant un système collagénique multimicrovacuolaire d'absorption dynamique. À la lecture de cet article et à la vision de séquences vidéo, on comprend mieux l'intérêt de la mobilisation la plus précoce possible. La massothérapie pratiquée chaque séance sera considérée comme une mobilisation tissulaire. Dans les premières séances, nous privilégierons deux exercices. Premier exercice, pour protéger la plastie, la mobilisation en flexion du genou doit s'effectuer dans l'axe sans rotation et dans le secteur angulaire 10 degrés 100 degrés, recréant les mouvements de glissement postérieur du tibia sous le fémur, en décubitus ventral avec un petit coussin devant la cheville. À 10 jours à peu près, flexion active douce et progressive, puis retour vers l'extension. Dans cette position, la contraction du quadriceps n'est pas un obstacle. La flexion du genou entraîne le déplacement de la patella dans la poulie trochléocondylienne, la forme des condyles fémoraux mobilisant les plans capsulaires et synoviaux, les mobilisations manuelles passives de la rotule, genou en extension, inconfortable pour le patient, ne présente pas d'intérêt. Le mouvement est réalisé par les ischio-jambiers et le triceps sural. Les muscles semi-membraneux et biceps crural en synergie sont des fléchisseurs puissants. Le semi-tendineux est un fléchisseur rotateur médial. Le gracile est un adducteur rotateur médial. Les muscles gastrocnémiens fléchisseurs de la jambe. Après Kenneth Jones ou plastie au fascia latale, la prise de greffe longitudinale ne contrarie pas cette mobilisation. Le DIDT sacrifie deux muscles stabilisateurs rotateurs médiaux. Les mouvements effectués lentement, sans à-coups et sans résistance, renforcent les fléchisseurs restants et facilitent la régénération tissulaire tendineuse par l'orientation et le renforcement de l'organisation collagénique cicatricielle. Ils aideront même à la résorption d'une collection hématique lorsqu'elle existe. Deuxième exercice, debout, main à l'espalier, en appui sur le membre inférieur sain situé en arrière, pied opéré sur le premier ou deuxième barreau de l'espalier, le patient travaille en autoprotection. Avancez le bassin et essayez de toucher le barreau de l'espalier avec le genou. Revenir sans atteindre l'extension complète. En poussant le fémur vers le mur, on réalise une flexion avec recul tibial et protection de la plastie. Cet exercice pratiqué sans douleur permet d'objectiver les progrès en flexion. Il sera répété plusieurs fois dans la journée par le patient en auto-rééducation. Après l'intervention, l'appui est autorisé avec une attelle rigide ou articulée, l'artelle articulée avec butée limitant l'extension et la flexion peut être prescrite. Code LPPR 21-52-22. Grandeur renforcement musculaire du membre inférieur en co-contraction protecteur de la plastie, sans puis avec charge progressive. On parle couramment de sidération quadricipitale, mais qu'en est-il exactement? Après une intervention de type Kenneth Jones, la contraction du muscle n'est pas des plus agréables. La protection de la plastie interdit la contraction active en chaîne ouverte. L'exercice de l'écrase-coussin, le plus difficile à réaliser en post-opératoire, est souvent pourvoyeur de gros genoux. Peut-on parler de sidération lorsque notre patient est capable de tenir en appui monopodal genou fléchi à 20 degrés? La littérature aujourd'hui précise que la co-contraction quadriceps ischio-jambier à un angle critique de 20 degrés n'entraîne aucune contrainte sur le LCA et dans tous les autres secteurs articulaires, elle diminue les tensions exercées sur le LCA. Troisième exercice. Dans les premières séances, on demandera au patient en appui bipodal sans attelle, genou fléchi, face à l'espalier, se tenant au barreau, de passer progressivement en appui monopodal. Le patient va prendre conscience que son genou opéré tient. Il pourra comparer avec le genou opposé la stabilisation active du genou en appui légèrement fléchi sur le plan sagittal est assurée par les muscles quadriceps et les gastrocnémiens empêchant la fuite du condyle fémoral vers l'avant, équilibrée par les muscles ischio-jambiers et soléaires ramenant le tibia sous le condyle. Le droit fémoral prend appui sur l'os coxal, les vastes médiales et vastes latérales s'insèrent sur la ligne âpre et entourent le fémur. Il ne présente aucune insertion sur les faces antérieures, médiales et latérales du fémur. Seul le vaste intermédiaire s'attache sur les faces antérieures et latérales du fémur. La contraction du quadriceps pousse les condyles vers l'arrière. La diaphyse allongée dans les vastes est ramenée vers l'avant par le vaste intermédiaire étiré par l'arrière avec le vaste médial et le vaste latéral. On ne parle plus de sidération musculaire du quadriceps. Les condyles fémoraux étant correctement placés sous le tibia, la plastie est respectée. La douleur inexistante, tenir la position, reposer le pied, répéter l'exercice. Cet exercice est à pratiquer en auto-rééducation plusieurs fois dans la journée. Quatrième exercice. Nous utilisons pour cet exercice une presse horizontale pneumatique alternée, permettant de travailler en co-contraction avec des charges très légères et sans à-coups. Les amplitudes sont limitées par des butées. Les deux pieds sur la plateforme, on réalise une poussée avec une charge légère. Le membre inférieur opéré est protégé et guidé par un membre contralatéral. La progression se fera avec augmentation de la charge en variant les amplitudes tolérées par la plastie. Les données et programmes peuvent être informatisés. Cet exercice permet de poursuivre la mobilisation tissulaire et l'organisation collagénique cicatricielle. Plus tardivement, la possibilité de travailler de manière alternée permettra d'équilibrer la résistance musculaire du membre opéré sur le membre sain. Grand 3, proprioception des membres inférieurs, y compris le membre inférieur contralatéral pour éviter le déconditionnement en appui bipodal puis unipodal. Le membre inférieur en appui oscille entre deux positions extrêmes de stabilité, le valgus flexion rotation latérale ou VFE et le varus flexion rotation médiale ou VRI. La stabilisation active dans le plan horizontal de ces positions fait intervenir les chaînes stabilisatrices rotatoires du VFE, muscle fibulaire, pas de doigts, semi-membraneux, adducteur, poplité, grand fessier, pelvitro-cantérien, et du VRI, muscle profond, loge postérieure de jambe, biceps crural, tenseur du fascia lata et petit fessier. Une analyse biomécanique réalisée par un système opto-électronique de capture de mouvement montre qu'entre ces deux positions, la mobilité du genou en rotation est moins importante que dans la coxo-fémorale et dans le complexe cheville-pied. Le bon fonctionnement du genou impose une bonne mobilité de la coxo-fémorale et de la subtalaire. Des limitations d'amplitude dans celle-ci imposeront les corrections nécessaires. Cinquième exercice, exercice de base de la proprioception. Dans le troisième exercice, le patient aura perçu la différence de stabilité entre les deux membres inférieurs. Il pourra aussi comparer la stabilité dans les positions VFE-VRI, debout en appui monopodal, pieds nus face à l'espalier. En statique, genou légèrement fléchi dans l'axe au début, puis en VFE et VRI. La mise en appui de ces différentes positions impose la bonne position du pied au sol en veillant à bien appuyer la tête du premier méta au sol, arche latérale légèrement soulevée en VFE, arche médiale creusée en VRI. pour renforcer et solliciter les capteurs proprioceptifs des muscles de la jambe, surtout après un DIDT. C'est aussi un excellent exercice de mobilisation des articulations du complexe cheville-pied. La progression se fera ensuite en proprioceptif dynamique, passant d'une position à l'autre avec ou sans déséquilibre provoqué. On utilisera les plans instables inclinés. La position d'origine de l'accident ligamentaire conditionnera le programme visant à obtenir une bonne stabilité dans cette position, VFE ou VRI. L'intervention DIDT imposera une attention toute particulière à la position du VFE. Un laboratoire de recherche nous donne aujourd'hui la possibilité d'évaluer l'efficacité de nos techniques. Nos travaux concernent particulièrement la co-contraction du membre inférieur, les positions de stabilité et les exercices de propriométrie. Le chantier est immense et nous aurons encore bien d'autres occasions de nous enthousiasmer. La reprise de l'activité physique passera par un programme de réhabilitation au cabinet et sur le terrain de sport par des exercices simples dits de propriométrie, combinant des exercices de musculation, de proprioception, de pliométrie, de saut, pratiqués avec ou sans matériel spécifique. Ce programme utilisé aussi en prévention, en préparation physique, en rééducation, en réhabilitation, permet d'évaluer et d'améliorer les capacités fonctionnelles avant la reprise de la compétition.